franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Marc.
Avant votre week-end, donc vous avez lu la presse, on commence par...
Eh bien par poser le postulat qu'aujourd'hui étant un jour férié, c'est le moment idéal de profiter de votre temps de cerveau et de papilles disponibles. On commence par quoi, le cerveau ou les papilles Marc?
Les papilles.
Allez les papilles. 180 degrés, le magazine des recettes et des hommes, le numéro 7, printemps-été vient de sortir. Et il vous faut le toucher ce magazine, le déguster, le dévorer des yeux. Magnifiques photos qu'on a envie de découper pour les encadrer, de produits de la terre, des piments, des pommes de terre nouvelles, des oignons nouveaux, mais aussi clichés d'hommes et de femmes qui nous racontent la passion de leur métier et de leur mode de vie. Photos lumineuses de Valérie qui a troqué sa veste noire et sa vie sombre pour monter son restaurant dans le Var. Très beau reportage avec des couleurs à la Depardon d'Éric Fesneau, parti faire les estives avec la famille Cariorbe dans les montagnes béarnaises pour y produire de la tomme de brebis. Vrai plaisir sensuel que ce semestriel. À la narration enlevée, les recettes pour les extra nuls vous feront autant sourire que peut-être enfin réussir la crème caramel. Et puis ne croyez pas que parce que vous faites plaisir, vous n'apprenez rien. Par exemple, d'où vient le symbole français par excellence, la baguette de pain? Eh bien, vous saurez tout de l'histoire du pain républicain, du pain noir au pain blanc, jusqu'au sauvetage de la baguette par un certain Édouard Balladur en 1993. On ne lui rend pas assez hommage.
Je vous demande de vous arrêter, Hélène. On continue avec notre temps de cerveau disponible.
Oui, en se plongeant dans Philosophie Magazine, pour s'arrêter sur un article de Michel Elchaninov qui tente de nous dessiller, sinon les yeux, en tout cas l'esprit. Que dit la photo des terroristes de l'aéroport de Bruxelles de l'attentat à venir? Vous vous souvenez, le cliché de ces trois hommes poussant un chariot, dont l'homme au chapeau, capté par les caméras de surveillance vidéo quelques minutes avant les explosions à Zaventem. Si cette photo a sur nous un pouvoir hypnotique, c'est parce qu'elle se lie au futur antérieur. En voyant cette photo, on sait que d'ici quelques minutes, l'explosion aura soufflé le hall et aura tué. Bref, on croit que le passé contient en lui le futur, qui n'est qu'une confirmation de ce passé. Eh bien, c'est un mirage, nous dit Elchaninov. Personne n'a expliqué ça il y a près de 100 ans, a expliqué cette illusion. Le futur antérieur nous fait croire que ce qui va arriver est inscrit dans le présent. C'est faux. Le moment T-1 ne produit pas l'instant T. Il porte encore une infinie possibilité d'événements. Alors, pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, juste pour concevoir que sans juger de l'utilité des mesures préventives, en tout état de cause, cela ne suffit pas à tout prévenir, tout simplement parce que le futur reste imprévisible. Méfiez-vous donc des lectures au futur antérieur, lectures au premier degré.
Le futur antérieur, c'est fait, et sur le présent et le futur tout court, Hélène, vous avez trouvé quelque chose ce matin dans la presse.
Sur le présent ou le futur très proche, je peux vous prédire un réveil en fanfare pour Alain Juppé. Le maire de Bordeaux va découvrir à la une de son quotidien régional Sud-Ouest sa photo et cette menace, ils sont tous contre Juppé. Ils auront mis le temps, écrit Bruno Div, mais cette fois c'est fait. Tous ses adversaires ont fini par comprendre qu'il était le plus dangereux. Ultra favori dans les sondages, le candidat à la primaire devient donc l'homme à battre. Alors ça c'est classique. Alors pourquoi ne pas s'intéresser plutôt à un futur qui s'imaginerait à rebours de la pensée dominante actuelle? C'est le pari de 150 personnalités qui publient dans Alternatives économiques de ce mois de mai un appel pour remettre la réduction du temps de travail au cœur du débat public. Parmi elles, Michel Rocard, Cécile Duflot, Pierre Laurent ou encore Daniel Cohn-Bendit. Alors, has-been, la réduction du temps de travail, au moment où on s'écharpe sur la question des droits des salariés low-cost de l'économie ubérisée ou sur la facilitation de licencier pour mieux embaucher, c'était l'argument initial de la loi travail, on se dit que l'idée n'est plus tout à fait tendance. Guillaume Duval, dans Alternatives économiques, prend néanmoins sa défense en nous racontant d'abord la bataille de longue haleine pour passer de la semaine de 48 heures en 1919 aux 35 heures de Lionel Jospin. Une réduction massive du temps de travail réalisée dans tout le monde industrialisé qui a toujours participé à la dynamique économique de ces pays, en plus d'améliorer les conditions de vie de chacun, explique le journaliste. Mais Guillaume Duval dissèque surtout pourquoi la dernière expérience, celle du passage aux 35 heures, a fait de ce sujet une question taboue. Eh bien parce qu'elle reste considérée comme un échec par les Français. Elle a créé des emplois, pour continuer à s'écharper sur les chiffres, elle a renforcé la productivité des entreprises, mais elle n'a pas su réunir insiders et outsiders. elle a permis aux seconds, c'est-à-dire les chômeurs, d'entrer sur le marché du travail, quand les premiers, déjà salariés, retiennent surtout leur salaire bloqué. Avec les 35 heures, écrit Duval, la France s'est trouvée confrontée à un problème classique en théorie des jeux. Une politique optimale pour la société dans son ensemble ne l'est pas nécessairement pour chacun des individus qui la composent. Et ben voilà, on en est là. C'est normalement aux partis et aux syndicats de résoudre ces contradictions entre intérêt général et intérêt individuel. Bon, c'est pas sûr que ce soit le chemin suivi actuellement, mais la réflexion est intéressante si on considère que le chômage de masse reste la plaie de notre société.
Nicolas Ferrari, la loi travail vue par le patron d'une entreprise américaine installée en France, à Paris, ça donne quoi ?
Écoutez, ça sent tout l'air d'être un joyeux bordel, vous me passerez l'expression.
Ça n'empêche pas de réfléchir.
Je pense que globalement, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de surtout résoudre les problèmes du passé et pas tellement de se poser les questions et les opportunités du futur. Moi, je parle pour ma paroisse et pour notre communauté. Il y a des solutions aujourd'hui pour augmenter le pouvoir d'achat qui sont autres que d'essayer de résoudre les problèmes du passé. Et par exemple, quand je vois que...
Mais le problème du chômage
000,
de masse n'est pas un problème du passé.
Non, c'est un problème majeur, mais pour le résoudre, on essaie de prendre des mesures qui sont, à mon avis, des patchs, des sparadraps pour et qui ne marcheront
c'est
pas.
C'est-à-dire l'ubérisation de la société, c'est une vague qui de toute façon va nous submerger contre laquelle
on
ne peut pas lutter.
Mais c'est une opportunité extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 200
Allez
000
pas dire
personnes.
Ça aux hôteliers qui dénoncent votre concurrence, puisque c'est des emplois en moins, du revenu en moins.
Il y a 200 000 personnes sur Airbnb qui gagnent 2000 euros par an. Ouais. Dites-leur que c'est pas une opportunité.
Et vous, allez dire aux hôteliers que c'est pas grave,
que c'est pas une opportunité pour elles. C'est une opportunité extraordinaire pour ces gens-là.
Hélène, la suite, on termine un peu plus légèrement.
Oui, avec un nouveau magazine dans vos kiosques depuis quelques jours, Pop Story, les romans de l'actualité. Sonia De Villers recevra son directeur, Jean-Luc Barbéry, dans l'instant M à 9h40. Alors sincèrement, la couverture peut faire fuir. On y voit Emmanuel et Brigitte Macron dans un cœur couleur guimauve qui nous rappelle les meilleurs opus de la collection Harlequin sous le titre « Et Brigitte créa Macron, la vraie histoire ». On peut fuir. Mais si on lit cette enquête sur la rencontre entre ce jeune lycéen brillant et sa prof de lettres, c'est sérieux, c'est fouillé, étude de caractère des milieux petits bourgeois dans une ville de province, Amiens, où il n'est pas simple de rompre avec le conformisme. C'est cash parfois. Si Brigitte Macron s'est répandue dans les magazines People ces dernières semaines, eh bien c'est parce qu'une sale rumeur courait dans le tout Paris et c'est écrit pour la première fois « Emmanuel Macron serait gay ». Alors c'est de l'intime, on peut s'en désintéresser. On peut aussi lire cette histoire comme un miroir d'une société qui a bien évolué. En 1969, une prof, Gabrielle Russier, tombée amoureuse d'un de ses élèves de 16 ans, s'était suscitée après le scandale provoqué. Aujourd'hui, Brigitte a 24 ans de plus qu'Emmanuel et tout le monde s'en fiche, on a changé de siècle. Et puis je termine juste en vous demandant, Marc, savez-vous qui vient de s'asseoir à mes côtés ?
Ah bah oui, ça j'ai vu, hein, Vincent Dedienne.
Vincent Dedienne en personne. Vincent,
attention,
qui vient d'être investi de la lourde tâche de concocter les bons mots qui normalement feront rire aux éclats le gratin de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Mais tout va bien Vincent. Laurent Lafitte, le maître de cérémonie, l'a choisi en effet comme camarade de jeu pour tester et trouver ses blagues. C'est raconté dans un chouette papier de M, le magazine du Monde, spécial Cannes, sous la plume de Lisa Vignoli. En avant-première, Vincent, une petite blagounette cannoise.
Ah bah, la meilleure qu'on ait trouvée.
Ah.
Et maintenant, Georges Miller. Elle est bien, non, je trouve.
Elle va être super, cette cérémonie.